Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, troisième numéro en compagnie de frère Thierry Hubert, dominicain et producteur depuis 2018 de l'émission Le Jour du Seigneur sur France 2 tous les dimanches à 9h30. Bonjour frère Thierry Hubert.
Bonjour Nathalie.
Alors ici à Lourdes, on a envie de parler que de miracles. Vous avez vécu au fond plusieurs miracles depuis cette période de confinement qui a débuté il y a plusieurs mois dans ces studios. Et puis cette émission du jour du Seigneur, selon vous, hein, quelle définition donneriez-vous aussi du miracle pour ceux et celles qui vous écoutent? C'est quoi un miracle?
Paradoxalement, je dirais presque que le miracle est quotidien tant il se travaille dans le cœur. Tant tout d'un coup, une disposition, une porte qu'on croyait fermée, à jamais fermée, scellée comme un tombeau en quelque sorte, eh bien, va mystérieusement, par la prière, par une rencontre, par quelques mots, s'ouvrir et c'est la vie qui jaillit. Voyez. Et ça, je pense que toute la révélation chrétienne et tout ce qu'on peut vivre, même d'apparition mariale. Alors, j'ai dans la tête, en fait, Paumain, mais je pourrais vous en parler si vous voulez.
Alors, c'est le producteur hein, du jour du Seigneur hein,
qui prend la parole. Oui, parce que pendant le confinement, justement, je ne sais pas si vos auditeurs nous suivaient, mais il y avait une vierge de Paumain qui était toujours là chaque dimanche. Et nous avons fait, réaliser une messe le 9 août dernier à Paumain, dans ce qu'est la plus petite cité mariale inconnue pratiquement de tous les Français.
Rappelez très vite
et qui relate en 1870 à quatre enfants, deux garçons, deux filles, une parfaite égalité des sexes déjà à l'époque. Eh bien, quatre enfants alors que l'armée prussienne est aux portes de Laval, en Mayenne, et qu'il y a un sentiment de terreur et d'abandon total. Le curé, l'abbé Guérin, pousse ses paroissiens à se réunir, à prier, à être solidaires les uns des autres. Et un soir du 17 janvier 1870, vers 18h30, ces quatre enfants voient une belle dame avec une robe couleur d'étoiles, bleue avec des étoiles, et qui va écrire, un message va s'écrire à ses pieds, « Mais priez mes enfants, en peu de temps, mon Dieu vous exaucera, mon fils se laisse toucher. » Voilà. Et que ce message que les enfants ont su décrypter parce qu'ils avaient su écrire, ils avaient su apprendre à lire, alors que normalement ça ne se faisait pas en 1870 dans les campagnes, mais c'est à la volonté du curé qu'il y a aussi une éducation des enfants, eh bien ces enfants vont être capables de redonner espérance à tout le village par la parole de la Vierge Marie. Qui commence par un « mais ». Alors, il y aurait tout à raconter, parce que l'institutrice, qui était une religieuse, disait « mais enfin, on ne commence pas par une phrase, par « mais ». ». Et les enfants disaient « mais ma sœur, vous nous dites bien, mettez-vous en classe ». Voilà, c'est ce que ce « mais », il dit bien que normalement, on doit être dans le fond du trou. Normalement, il n'y a plus rien, mais ce « mais » nous dit, en fait, la porte peut s'ouvrir. En fait, on peut relever la tête. En fait, l'Esprit de Dieu peut continuer d'irriguer nos cœurs et de nous apporter la paix.
Alors, on est un peu au fond du trou en ce moment, dans l'actualité du monde, frère Thierry Hubert. Alors, comment relever la tête et retrouver peut-être cette porte ouverte, hein, ouverte vers le ciel et une porte ouverte sur la lumière?
Alors, c'est sûr qu'on peut se dire, et l'encyclique du pape Fratelli Tutti commence bien par un premier chapitre qu'on pourrait penser très noir, mais que la puissance de la révélation chrétienne, la puissance du Christ ressuscité, c'est de dire que tout ce qu'il y a de mort peut reprendre. Là où il y a de la mort, il peut encore y avoir de la vie. Hein? Là où semble gagner la victoire du mal, du bien peut encore surgir. Et ça, c'est une espérance que seuls les chrétiens peuvent avoir. Enfin, aux yeux du monde, tout peut paraître un peu par terre, mais nous, chrétiens, parce que il y a la victoire du matin de Pâques, parce qu'il y a la bonne nouvelle de Jésus qui nous est toujours transmise de génération en génération, au-delà des méandres et des pataquès de l'Église qui n'est pas toujours très propre, eh bien, il n'empêche que cette bonne nouvelle, elle vient résonner nos cœurs et qu'elle est capable de nous relever et de redonner de l'espérance là où il y avait de l'angoisse et du désespoir.
Alors, vous avez parlé, relaté cet épisode donc du jour du Seigneur et puis de cette émission à Pontmain. Pourquoi avoir choisi, en temps de confinement, dans ce studio, cette chapelle aménagée dans cette période du coronavirus, la statue de Notre-Dame de Pontmain, et pourquoi ne pas avoir pris Notre-Dame de Fatima, qui relate aussi l'épisode des petits voyants? Pourquoi ne pas avoir pris aussi l'Immaculée Conception Notre-Dame de Lourdes? Pourquoi Notre-Dame de Pontmain dans ce studio du jour du Seigneur en période de confinement? Une histoire particulière, frère Thierry Hubert?
Parce que je suis né à 17 km de Pontmain.
Voilà. Et que... Nous connaîtrons tout de frère Thierry Hubert. Oui,
et que souvent avec mes parents, on allait en pèlerinage à Pontmain. Et que cette Vierge avait une histoire. Parce que je vous disais que Pontmain n'est pas du tout connu en France. Alors que Pontmain est énormément connu en Asie ou au Canada ou chez les Inuits. Parce que c'est le siège des Oblats de Marie Immaculée à Pontmain. Et que quand les missionnaires sont partis au XXe siècle évangéliser à droite et à gauche, ils ont pris dans leur valise la Vierge de Pontmain, priée sous le vocable de Notre-Dame de l'Espérance. Si bien que si vous vous baladez un peu partout dans le monde, vous verrez des Vierges de Pontmain, alors qu'on en voit pratiquement peu en France. Et ce qui est d'intéressant, c'est que c'est un frère dominicain, le frère Franck Dubois, qui prêchait le rosaire l'année dernière, qui était aux Philippines pour des partenariats avec des jeunes, et bien en humanitaire, qui, en rentrant dans une église, voit la Vierge de Pontmain. Et comme moi, je lui en avais toujours parlé, parce qu'on était du même noviciat, il m'a ramené une Vierge de Pontmain. Et il m'a dit, eh bien, puisque elle vient des Philippines, on fera un pèlerinage de Paris à Pontmain à pied, ce qu'on a fait en août 2018, où on avait fait 300 km à pied pour rejoindre Pontmain. Et cette année, c'est le 150e anniversaire des apparitions.
Alors, quand le studio du jour du Seigneur se déplaçait, ou se déplace peut-être en période de coronavirus, est-ce que vous emportez toujours dans vos bagages la statue de Notre-Dame de Pontmain? Dites-nous tout, confidence pour confidence.
Oui. Comme elle fait à peu près 60 cm, j'avoue que non. Et puis, comme en venant à Lourdes, je me suis dit qu'il y avait quand même la Vierge de Lourdes qui était la même Vierge sous un habit différent et qui nous donnait quand même cette même tendresse maternelle qui, tout d'un coup, parce que moi, j'aime beaucoup la Vierge Marie. Alors, les Dominicains aiment bien la Vierge Marie parce qu'elle a porté en elle la parole et qu'elle la porte au monde, comme le fait un Dominicain qui porte et qui accepte que la parole naisse en lui pour pouvoir la porter au monde. Et à travers sa chair, à travers les fibres, à travers ses failles, à travers toutes les difficultés qu'il peut rencontrer. Et puis, en même temps, je trouve que... peut-être que pour découvrir un Dieu paternel, on a besoin d'être accompagné d'un visage de femme. Voilà. Moi, je crois beaucoup à ça. Pour détruire toutes les fausses images de Dieu père qu'on peut avoir, on a sans doute besoin d'être accompagné par une femme.
On a oublié peut-être cette vocation aujourd'hui de la femme.
Eh bien, du coup, on ouvre là des pistes qui... mettre chacun au bon endroit, ou parce que dans la Bible aussi, souvent, le salut, il arrive par d'abord le concours d'une femme qui dit oui à Dieu et qui permet tout d'un coup de lancer un nouveau salut au peuple qui paraît être dans une impasse. Et d'ailleurs, pour dévoiler un petit peu le programme de l'Avent du jour du Seigneur, ce sera justement
tout, oui.
Viens, suis-moi, oui. Empruntons les chemins du Seigneur en suivant des grandes figures féminines.
Ah oui, donc...
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Geneviève,
ouais.
Madeleine d'Elbrel et la Vierge Marie.
Donc c'est tout le programme
de l'Avent,
frère Thierry,
que je vous dévoile.
Que vous nous dévoilez, donc c'est un petit scoop.
Un petit scoop.
Oui, ouais, donc c'est le programme du jour du Seigneur.
Pour l'Avent.
Pour le temps de l'Avent. Et il y a aussi ce programme auquel vous avez contribué. On peut peut-être en parler dans cette série des clés pour vivre dès demain. C'est un programme aussi de mission, d'évangélisation autour de la parole, retraite dans la ville. Ça vous dit quelque chose, frère Thierry?
Oui, retraite dans la ville, c'était
oui,
avant le jour du Seigneur. Oui, c'est toute une histoire.
Alors, on en parle demain?
Oui, on en parle demain.
On n'a pas le temps. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tous nos auditeurs en cette période qui est compliquée pour beaucoup? Un dernier mot d'espérance et d'encouragement pour eux.
Eh bien, que ces paroles de la Vierge Marie laissées à Pontmain, priez mes enfants, mon fils se laisse toucher, voilà, que Jésus, étant à la fois homme et Dieu, entend notre souffrance et là où il y a de la souffrance, il est capable de la transformer dans, comme dans sa passion, en chemin de résurrection.
Merci frère Thierry Hubert, à demain.
À demain.
Entretien numéro 4.